Chapitre 23. Lorsque je regagne ma chambre, j'ai l'impression d'avoir fait une séance intensive de gainage tant j'ai mal aux abdominaux. Tout à l'heure, pendant que nous reprenions peu à peu notre souffle, je n'ai pas réussi à refouler les souvenirs d'autres fous rires partagés avec Meryl. Ma fille était sans cesse de bonne humeur, s'enthousiasmant pour un rien. Un vrai distributeur de rires. Les expressions qu'elle inventait et qu'elle utilisait le plus sérieusement du monde en constituaient le plus souvent le point de départ. Un jour, elle devait avoir à peine 5 ans. Nous marchions toutes les deux dans la rue et un type devant nous avait jeté par terre le sachet froissé contenant la viennoiserie qu'il venait sans doute d'acheter à la boulangerie. Sensibilisée par l'école à l'écologie et au recyclage des déchets, Meryl l'avait aussitôt interpellé, lui rappelant qu'il était interdit de jeter ses déchitrues par terre et qu'il fallait faire attention à la planète parce qu'on n'en avait qu'une seule. Haute comme 3 pommes, elle lui avait asséné sa réprimande, bien campée sur ses jambes, les poings sur les hanches. Le type s'était platement excusé, avait ramassé son sachet qu'il avait mis dans sa poche, promettant de le jeter dans la première poubelle qu'il verrait. « Il y a intérêt !» avait conclu ma fille, déclenchant chez moi un irrépressible éclat de rire. Étrangement, ce souvenir, bien qu'il fasse s'affoler mon cœur, ne me fait pas souffrir. M'en rendre compte me surprend un instant. J'ai eu pendant de longs mois de la haine pour tous ces souvenirs. Parce que si l'on peut maintenir la souffrance à distance en ne regardant ni les photos ni les vidéos, en ne poussant pas la porte de la chambre dans laquelle elle dormait, en revanche, on est impuissant contre les souvenirs qui sont là, ancrés, et qui surgissent sans crier gare. Ces souvenirs qui, tels des uppercuts dans l'estomac, me coupaient systématiquement le souffle alors que j'étais en train de prendre ma douche ou de faire la cuisine. Je suis encore loin d'avoir intégré le club de ceux qui chérissent les souvenirs et qui les convoquent même volontairement pour garder le sourire et le moral, mais réaliser qu'ils ne me mettent plus à terre est un début. À mes pieds, Neige trépigne, quémandant des caresses. Je l'ai trouvée dans la chambre lorsque je suis remontée. La serrure ne doit pas bien fonctionner. Je me baisse pour lui accorder ce qu'elle réclame et constate qu'elle a grignoté l'un des montants de la chaise de bureau. « Neige, ce n'est pas bien, tu ne dois pas manger les meubles !» lui criai-je apparemment sans grand succès au vu de sa queue qui continue à frétiller. « Je serai toi, j'arrêterai de faire ça. Alban et Frédéric ne pourront pas garder dans leur hôtel un chien qui y fait des dégâts. » Quant à une éventuelle adoption, la perspective de retrouver des choses mâchouillées ne sera pas très engageante, crois-moi. Il faudra que je pense à signaler à Frédéric ce souci de serrure s'il ne veut pas que tout son mobilier soit abîmé. La petite chienne qui s'est assise aboie avant de sauter sur le lit et de se rouler en boule. Et donc tu dors? C'est ainsi que tu vois la situation? Eh bien, ne crois pas que je vais te laisser t'en sortir comme ça. Nous aurons de nouveau cette conversation, jeune fille. Le rire, qui décidément n'était pas bien loin, me gagne une nouvelle fois. Si l'on m'avait dit que je ferais la leçon à une petite boule de poils blanches... C'est donc en riant que je décroche mon téléphone qui s'est entre-temps mis à sonner, sans prendre connaissance de l'identité de l'appelant. Allô, oui?
Roxane, c'est moi. C'est maman. Je ne sais pas ce qui te fait rire, mais ça fait plaisir à entendre.
Bonjour, maman. La légèreté des instants précédents s'envole presque instantanément.
Comment vas-tu, ma chérie? Tu ne m'as pas donné de nouvelles depuis... Eh bien, depuis le procès. Je me suis inquiétée.
J'ai besoin de prendre un peu de distance. Je suis allée passer quelques jours à New York.
New York? J'aurais dû m'en douter. Tu as toujours beaucoup aimé cette ville.
Je m'y suis toujours bien sentie. Ça m'a fait du bien de partir là-bas.
J'aurais voulu que tu restes un peu. Que nous prenions le temps de parler de tout ça. Je sais que le procès t'a beaucoup remué.
Pas toi. Mettre un visage sur l'auteur de l'accident. Entendre l'histoire, connaître les circonstances, ça ne t'a pas remué.
Si, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Que je suis insensible? Que tu es la seule à souffrir et à être malheureuse?
On ne dirait pas que ça te fait quelque chose.
Tu es injuste envers moi.
Je t'ai observée, maman. Pendant le procès. Je t'ai observée et... J'ai vu qu'elle te touchait. Que ce qu'elle racontait te faisait de la peine. Elle. Celle qui a tué ma fille et mon frère. Celle qui a tué ton fils.
Oui, et alors? Ça fait de moi un monstre, c'est ça? C'est vrai. Sa sincérité m'a touchée. Le fait qu'elle souffre elle aussi de ce qu'il s'est passé m'a touchée.
Mais elle a tué deux personnes. C'est sa faute.
C'était un accident. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, ça aurait pu t'arriver à toi.
Ah non, s'il te plaît, ne renverse pas les rôles. J'ai conduit durant de nombreuses années, et personne n'est jamais mort à cause de moi.
Roxane,
murmure-t-elle.
Pourquoi est-ce que tu te bats contre moi? On dirait que tu m'en veux. Je ne sais plus quoi penser. Tu n'es pas la seule à être malheureuse. Tu n'es pas la seule à revivre sans cesse cette journée maudite. J'ai les mêmes souvenirs que toi. Et que tu le crois ou non, c'est difficile pour Stéphane aussi.
Tu l'appelles Stéphane maintenant? Ça donne l'impression que tu parles d'une amie avec qui tu passes des soirées en lui montrant les albums photos.
Je ne dirais pas que nous sommes amis, c'est trop embrouillé encore, mais oui, je l'ai vu à plusieurs reprises.
Quoi? Attends, je rêve là. Tu l'as vu? Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Est-ce que t'as pensé à Meryl et Xavier morts et enterrés à cause de cette femme?
Je ne pense qu'à eux tout le temps. C'est elle qui a pris contact avec moi pour être parfaitement honnête. Elle voulait qu'on puisse parler. Elle voulait me dire encore une fois combien elle était désolée. Elle tenait à me demander pardon, c'était important pour elle.
Mais je me contrefiche de ce qui est important pour elle. Ne me dis pas que tu lui as pardonné. Que tu lui as dit que ce n'était pas grave, comme on peut le dire à un gosse qui a cassé un vase en lançant un ballon. Son silence répond à ma question bien mieux que des mots. C'est ça. Tu lui as pardonné. Elle a tué ma petite fille, l'amour de ma vie. Et tu lui as pardonné. Les larmes ont remplacé le rire. Elles me brûlent les yeux autant que le cœur.
À quoi bon, Roxane? La rancœur, la colère ne les ramèneront pas. Et si tu veux tout savoir, ça m'a fait beaucoup de bien.
Je refuse de continuer à t'écouter davantage. Tu nous as trahis. Rien, jamais, ne pourra effacer ça. Ne m'appelle plus, c'est mieux. Au revoir, maman. Je raccroche, sous le choc de ce que je viens d'entendre. Comment peut-elle lui pardonner? Et puis quoi ensuite? Elle va tourner la page et faire comme si de rien n'était. Jamais. Jamais je ne pourrai. Elle m'a pris Meryl. À cause d'elle, j'ai perdu mon frère jumeau. Non. Jamais je ne pourrai lui pardonner.
Je voudrais qu'elle meure!
Hurlai-je soudain dans la chambre.
Oui! Elle ne mérite pas de vivre!
Eh bien, j'espère ne jamais vous donner une raison d'être en colère contre moi. Gwénolé se tient derrière la porte de ma chambre. Pardon, Roxane, une nouvelle fois la porte était mal fermée. Il doit y avoir un souci avec la serrure, je le dirai à Frédéric au passage en redescendant. Je peine à recouvrer mes esprits, il le faut pourtant. Merci, Gwénolé, murmurai-je après un effort de concentration qui me semble surhumain. Ça n'a pas l'air d'aller.
Si. Enfin, non. C'est juste que... Vous avez besoin de quelque chose?
Tentai-je pour faire diversion. Je voulais juste vous inviter à dîner au restaurant, pour vous remercier pour cet après-midi. Il y en a un très bon à quelques rues d'ici.
Avec plaisir.
Je vous retrouve dans le hall dans une heure. Ce sera parfait. Mais, chère Roxane, vous êtes sûre que...
Non.
Mais, il faudra bien. Nous voici attablés dans un charmant restaurant italien, situé non loin de l'hôtel et dont j'ai entendu moi aussi parler en bien à de nombreuses reprises, devant deux assiettes odorantes de linguine crémeuse aux crevettes que ni Gwénolé ni moi n'avons pourtant encore entamées. Pour être tout à fait honnête, j'ai hésité à me décommander pour ce soir. Mais après une longue douche brûlante, une de celles qui vous laisse la peau rougie et embue la salle de bain,
Je suis parvenue à éloigner au moins un petit peu les mots prononcés par ma mère. J'ai signalé à Frédéric le souci avec votre serrure. Il m'a dit qu'il y jetterait un œil. Merci, c'est gentil. J'espère qu'il ne tardera pas trop parce que j'en connais une qui en profite quand je ne suis pas là pour se faufiler à l'intérieur de la chambre et mâchouiller les meubles. Encore ? Pendant que vous étiez à New York, elle s'en est aussi donnée à cœur joie, avec un goût prononcé pour le cuir, si possible neuf, des baskets d'Alban. La pauvre, elle en a retrouvé plusieurs paires en piteux état après les avoir malencontreusement oubliées dans le hall. Heureusement qu'elle ne laisse pas traîner son pull préféré. Oui. Il pique distraitement une crevette avec sa fourchette, avant de la reposer au bout de quelques secondes, sans même avoir essayé de la porter à sa bouche. C'est triste, vous ne trouvez pas ? Quoi ? Que Neige mange des baskets plutôt que des croquettes ? Plaisantais-je. Non. Cette vision qu'a la petite Alban de l'amour. Oh, ça lui passera. Je sais que ça ne lui plairait pas du tout de m'entendre dire ça, mais elle est jeune. Avec les années, elle changera. Je n'en suis pas aussi certain que vous. Plus ça va et plus j'ai le sentiment que nous avons échoué avec cette génération. C'est comme s'ils avaient perdu tout droit à l'innocence et à l'émerveillement. Ils sont à peine nés que déjà ils doivent être conscients que la planète est en danger, qu'il ne leur sera pas facile de trouver du travail ou encore qu'ils n'auront sans doute pas de retraite et qu'il faut donc prendre des dispositions en ce sens. Tout ça est déprimant, comme une journée de novembre pluvieuse. On ne les laisse même plus croire au Père Noël, c'est un comble. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Une discussion dont j'ai été témoin il y a quelques mois. Que j'ai espionné, pour être tout à fait exact, me précise-t-il avec dans le regard cette espièglerie qui le caractérise et qui est là assez peu présente ces derniers temps. Deux jeunes femmes parlaient ensemble et se félicitaient de ne pas avoir entraîné leurs enfants dans cette supercherie de Père Noël. Elles disaient qu'il n'y avait rien de plus important que de dire la vérité aux enfants. Je n'avais jamais rien entendu de plus triste. Pourquoi les priver de cette part de magie liée à l'enfance ? Pas étonnant ensuite que tout fiche le camp, même les rêves de prince charmant. Quand vous aviez 12 ans, est-ce que vous étiez comme la petite Alban à vous dire que l'amour, comment a-t-elle dit déjà ? Ça craint. Non. À 12 ans, je rêvais au prince charmant. Et à ma future robe de mariée. J'enfilais en douce l'une des robes blanches de ma mère, je lui piquais une paire de chaussures à talons et je m'imaginais au bras d'un type sublime, si possible avec la tête de Leonardo DiCaprio. Ah, vous voyez ? Même si je n'ai aucune idée d'à quoi ressemble votre bellâtre, je vous crois sur parole. Ce n'est pas pour autant que je l'ai rencontré, ni même que j'ai finalement envie de me marier. Mais vous croyez quand même au grand amour. Celui pour qui l'on est capable de tout et surtout de n'importe quoi. Sans doute, oui. Même si je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve et qu'à mon grand désespoir, Leonardo est devenu un type bouffi et bedonnant. C'est peut-être Frédéric, lance tout à coup Gwénolé. Je manque de recracher la gorgée de vin rouge que j'allais avaler pour tenter de m'ouvrir l'appétit. Frédéric, le père d'Alban ? Mais nous avons à peine échangé 3 mots, pourquoi est-ce que vous pensez à lui soudain ? Je ne sais pas, mais pour quelqu'un qui n'a échangé que 3 mots avec vous, comme vous dites, je trouve qu'il était bien inquiet lorsque vous avez quitté la fête d'Alban précipitamment l'autre fois. Et pendant votre absence prolongée, il m'a souvent demandé si j'avais de vos nouvelles. C'est un hôtelier soucieux de sa clientèle, rien de plus. Peut-être. Mais vous ne m'ôterez pas de la tête que vous lui plaisez. Quelle étrange idée. Non que Frédéric ne soit pas un bel homme, plutôt gentil, semble-t-il. Mais l'amour est tellement loin de mes préoccupations. Je ne sais plus à quand remonte ma dernière histoire, ni même si j'en ai envie. Il y a du bon dans le célibat. On ne risque pas de souffrir en perdant l'autre. Je propose que nous commencions à déguster ces pâtes qui ont l'air délicieuses avant qu'elles ne soient complètement froides, dis-je pour changer de sujet. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Le serveur qui est là-bas et qui nous observe depuis un moment a le visage tout crispé. Des clients qui ne mangent rien, ce n'est en général pas très bon pour le commerce.
Le restaurant n'étant qu'à une vingtaine de minutes de marche de l'hôtel, nous avons décidé, malgré l'heure tardive, de ne pas appeler de taxi et de rentrer à pied. Au grand dam du serveur, à qui il a fallu dire à plusieurs reprises que non, 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 tout était délicieux. L'appétit n'a pas été au rendez-vous, ni pour l'un, ni pour l'autre. La compagnie n'en a pas été moins agréable. Gwenolé ne m'a pas questionné sur ce qu'il a entendu tout à l'heure dans ma chambre. Il fait partie de ces personnes qui ne forcent pas à la confidence, qui ne cherchent pas par tous les moyens à vous faire parler alors que vous n'en avez pas envie. Mais comme je sais qu'il est aussi de ceux qui savent écouter, je me décide à lui raconter. J'ai eu ma mère tout à l'heure au téléphone. J'ai quitté le tribunal avant la fin du procès et suis partie presque aussitôt pour New York sans la prévenir. Elle s'est inquiétée. Rien de plus normal pour une mère. Oui. Mais elle m'appelait surtout pour me dire qu'elle avait passé du temps avec celle qui a tué ma fille. Et même qu'elle lui avait pardonné. Vous imaginez un peu? Ma propre mère, qui elle-même a perdu un fils dans cette histoire, faut-il le lui rappeler, me téléphone pour me dire qu'elle a de l'empathie pour cette femme, parce qu'elle est malheureuse et qu'elle s'en veut. Et vous voulez savoir le pire de tout? Elle m'a conseillé d'aller lui parler. Ça m'a fait sortir de mes gonds. Vous me voyez aller à sa rencontre? On croit rêver. Plus jamais je ne veux croiser le regard de celle qui a ôté la vie à ma petite fille. Plus jamais. Elle ne mérite aucune compassion. Seulement ma haine. À côté de moi, Gwenolé continue à marcher silencieux. Gwenolé? Il s'arrête et se tourne vers moi.
Je sais que ce que je vais dire ne va probablement pas vous plaire. Mais peut-être votre mère a-t-elle raison. Peut-être que vous devriez vous aussi essayer de pardonner.
Essayer de pardonner? Oh non, pas vous.
Pardonner ne veut pas dire aimer, ni même oublier. Mais ça vous permettrait sans doute de vous alléger et d'aller de l'avant. D'arrêter de vous faire du mal. Vous êtes encore jeune et...
C'est vous qui me parlez d'arrêter de se faire du mal? Vous qui continuez à aller rendre visite à une femme qui ne vous reconnaît pas et qui par-dessus le marché vous confie qu'elle en aime un autre? Je suis désolée, mais vous êtes mal placée pour me donner des leçons.
Ajoutai-je sèchement. À peine ai-je prononcé ces paroles que je les regrette. Je suis injuste envers Gwenolé qui, depuis que nous nous connaissons, ne fait preuve à mon égard que d'une infinie gentillesse. Je n'étais pas cette fille en colère. Pourquoi suis-je incapable de réagir autrement?
Je suis désolée, Gwenolé, je ne pensais pas ce que je disais.
Ce n'est pas grave. Je ne vous en veux pas, me répond-il tout en reprenant la marche. Vous avez raison. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Après tout, qui suis-je pour vous dire comment vous devez gérer ce deuil terrible?
Nous sommes arrivés devant la porte de l'hôtel. Je lui fais face et me reproche la tristesse que j'ai sans nul doute amenée dans son regard. Je m'approche de lui, lui prends la main et dépose une bise sur sa joue.
Qui vous êtes pour moi?
Un ami?
Je l'espère en tout cas.
Vous êtes l'une des plus belles personnes qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je n'ai jamais trouvé qu'on devait mesurer l'importance des gens à la longévité de la relation. Vous et moi, on se connaît depuis à peine quelques semaines. Pourtant, vous comptez beaucoup pour moi.
Chère Roxane, vous aussi m'êtes précieuse. Si je vous ai blessée, je le regrette, mais pensez-y. Je vous promets de ne plus en parler. En contrepartie, promettez-moi d'y réfléchir.
Je ne peux pas. C'est bien trop douloureux. Et ce serait trop facile. Merci pour ce repas, Gwenolé. Et encore une fois, je regrette de vous avoir blessé. Bonne nuit à vous.
Je me dirige vers mon couloir de chambre, sans lui laisser l'occasion de poursuivre, de réitérer sa demande. Je ne veux pas y réfléchir.
Il n'en est pas question. Je refuse d'oublier qu'il y a un an, une personne m'a pris en quelques secondes ce que j'avais de plus cher au monde. Et qu'à cause d'elle, ma vie a perdu tout son sens.